musique est un cri qui vient de l'intérieur.
I still have a dream.
Je rêve d'un autre monde.
Je voudrais tout d'abord vous faire partager une conviction de femme.
On n'a pas que de l'amour. Ça, non.
Tout homme, et à plus forte raison, tout artiste, désire être reconnu. Je le désire aussi.
Tous les mêmes, tous les mêmes, tous les mêmes, et y'en a marre.
And I'm feeling good.
Bonjour à toutes et à tous, Séverine au micro. Je suis ravie de vous retrouver sur les ondes de RQC. Il n'y a pas péril en la demi-heure, une demi-heure pour aborder avec des invités des sujets de société, des sujets d'actualité. C'est tous les troisièmes vendredis du mois, entre 13h et 13h30, sur RQC 95 FM. Le 27 mai prochain, le Centre culturel Moucronois diffusera dans le cadre de ses apéros ciné le film d'Antoine Vance, Souviens-toi des cacahuètes. À l'issue de la projection, Amélie Lerouge, psychologue clinicienne et sexologue, diplômée à la fois de l'Université de Mons et de l'UCL, apportera son éclairage d'experte sur les thématiques abordées dans ce long métrage, celui du syndrome de Peter Pan, aussi appelé adolescence. Elle est l'invitée de Il n'y a pas péril en la demi-heure.
Amélie, bonjour.
Bonjour.
Merci de nous accorder donc cette interview. Dans le cheminement de la construction de soi, de nouveaux termes viennent s'ajouter à ceux bien connus de l'enfance, l'adolescence et l'âge adulte. On parle de préadolescence et d'adolescence. Je dis nouveaux termes, mais en fait, ce n'est pas si nouveau que ça finalement.
Non, c'est quelque chose qui est quand même assez ancien. On en parlait déjà il y a quelques années, donc avec le phénomène sociétal où l'adolescence a tendance à prendre plus de place et où on ne sait pas réellement quand elle s'arrête. Alors 18 ans, oui, légalement, c'est l'âge adulte. Mais est-ce que pour autant à 18 ans, on est adulte? Là, on n'est pas sûr. Il y a certains auteurs quand même qui disent que l'adolescence peut continuer jusqu'à 25 ans. Et donc ce terme d'adolescence, il est là un petit peu pour combler cette période qui existe entre finalement la fin de l'adolescence sur le plan plutôt légal avec cet accès à l'âge adulte à 18 ans et puis finalement les comportements qui continuent et qui ressemblent plus à un adolescent jusque parfois 23, 24, 25 ans au niveau sociétal.
Donc voilà, vous venez de définir cette notion d'adolescence. Est-ce que se différencie du syndrome de Peter Pan ou est-ce que finalement ce sont des synonymes?
Alors, elle peut se différencier, en tout cas, elle se différencie, puisque le syndrome de Peter Pan ne va pas concerner les personnes qui ont 20 ans. On ne va pas donner ce diagnostic à des personnes qui ont une vingtaine d'années, on va plus le donner vers des personnes qui ont 30, voire 40 ans, qui vont avoir finalement des comportements très enfantins, voire de très jeunes adolescents, alors qu'ils sont adultes et qui sont censés, à cet âge-là, prendre des responsabilités d'adultes. Donc, c'est pas tout à fait la même chose. L'adolescence n'est pas finalement, un souci. Il n'y a pas spécialement de prise en charge à avoir avec des personnes qui sont dans cette phase-là de la vie. Je veux dire, l'adolescence est maintenant une phase supplémentaire entre l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte. Mm-hmm. Le syndrome de Peter Pan, là, ça nécessite à un moment donné de poser le diagnostic et d'avoir une prise en charge adaptée pour que ces personnes puissent évoluer et devenir réellement des adultes par la suite.
Donc le syndrome de Peter Pan est-il considéré par le corps médical comme une pathologie clinique?
Alors pas tout à fait, parce qu'on ne le retrouve pas dans le DSM-5, donc il n'y a pas de position qui est prise par rapport à syndrome. Et d'ailleurs, on va avoir certains professionnels qui ne vont même pas utiliser ce terme de syndrome, mais plutôt de complexe de Peter Pan. On peut retrouver aussi ce terme-là à certains moments. Donc non, ce n'est pas reconnu au niveau médical. On n'a pas un test comme on peut l'avoir pour certaines pathologies dans le DSM pour dire si oui ou non la personne est dedans. Maintenant, on a toute une série de caractéristiques qu'on identifie chez ces personnes-là et qui nous mettent la puce à l'oreille pour donner ce diagnostic.
Donc c'est plutôt considéré comme un trouble du comportement, on peut dire, ou c'est encore autre chose?
On pourrait dire qu'il y a un souci au niveau du comportement là derrière, parce qu'effectivement, on va avoir des personnes très très immatures qui vont rejeter les responsabilités d'adultes, qui vont finalement voir l'enfance comme la période la plus merveilleuse de leur vie, et donc ils vont avoir du mal à passer ce stade. Donc on pourrait voir ça comme un trouble du comportement, puisque dans l'immaturité, on va aussi avoir des moments où ces adultes vont passer par des périodes de caprice, par des moments d'impulsion qu'on n'est plus censé retrouver à ces âges-là.
Comment le diagnostiquer? Comment, enfin, existe-t-il des signes, des symptômes, des signes, des critères pour diagnostiquer ce syndrome chez un adulte?
Oui, alors on va avoir le refus des responsabilités qui vont impacter la sphère professionnelle. Ce sont des personnes qui vont rarement garder un emploi, voire en trouver un, parce qu'ils vont montrer ces signes d'immaturité et de rejet des responsabilités. Dans le film, on le voit très bien d'ailleurs, hein, c'est finalement « j'ai besoin de toi ce soir pour travailler ». Ah non, moi j'ai quelque chose de prévu. Bon, ce qui est prévu, c'est finalement d'aller faire du skateboard. Alors c'est très bien, mais par rapport aux responsabilités professionnelles d'un adulte, un adulte accompli aurait accepté de travailler. Mmh. On va aussi avoir la dimension relationnelle qui va être impactée, des personnes qui, finalement, en tout cas dans les relations amoureuses, vont malheureusement pas pouvoir garder souvent ces relations très longtemps parce qu'il y a cette immaturité, notamment au niveau de la communication, une immaturité dans la sexualité aussi qui va impacter les relations amoureuses. On va aussi avoir un impact dans tout ce qui va être relations amicales, des personnes qui vont vouloir se trouver au centre du monde, finalement comme un enfant qui est au centre du monde pour tous les autres. Et donc, ce sont des personnes qui vont vite être rejetées parce qu'à un moment donné, être le centre, c'est pas possible. Ça va impacter les projets d'adultes. Ce sont des personnes qui, à 30, 40 ans, se voient absolument pas travailler de manière fixe, avoir peut-être des projets pour bâtir une maison, des prêts, etc. Ce sont des personnes qui vont vraiment avoir du mal. C'est des gens qui vont aussi plus aller vers des activités très ludiques mais très enfantines, qui vont vraiment arriver à faire des caprices, qui vont aussi, quand on va les pointer du doigt en disant « là, t'as fait une erreur, prends tes responsabilités », toujours dire « c'est pas moi, c'est les autres ». Donc ça pose réellement de grandes, grandes difficultés à ces personnes-là. Et donc à un moment donné, à force de rejet, parfois ils prennent aussi conscience qu'il y a un souci quelque part.
Est-ce que le syndrome de Peter Pan peut justement influencer sur le plan sexuel, par exemple, au niveau du couple?
Alors oui, ça a un impact. Alors ça a un impact à différents niveaux, parce que comme on est dans des relations qui sont immatures, avec un manque de communication, un manque de prise de responsabilité, mais parfois, il n'y a pas forcément de sexualité. Ou en tout cas, c'est difficile d'y accéder. Et en fonction aussi de pourquoi le syndrome a pris cette place, dans les causes, on a vu que l'abus pouvait être effectivement une des causes. C'est parfois plus compliqué pour des personnes qui ont vécu des abus de type sexuel d'accéder à leur sexualité par la suite. Après, quand parfois il y a sexualité, parce que c'est des gens qui peuvent effectivement avoir une sexualité, on est parfois face à des personnes qui vont vraiment centrer sur leur plaisir à eux, et pas sur l'autre, puisqu'on est face à des gens qui sont fort égocentriques. C'est mon plaisir avant les autres. Et donc, ça peut vraiment amener des difficultés au niveau de la sexualité.
Et là, vous travaillez sur le couple, alors, dans ces cas-là?
Tout à fait, on peut travailler sur le couple. Et si je vais dire, c'est des personnes, parce que dans le film, on peut un peu se douter que finalement, l'actrice principale qui incarne la personne qui a le syndrome de Peter Pan, quand les questions sur la sexualité sont posées, on peut imaginer qu'elle ne connaît pas la sexualité. Et donc, on peut aussi travailler en individuel, parce qu'on est face finalement à une personne de 30 ans qui n'a jamais eu de sexualité. Alors, est-ce que c'est un problème? Pas forcément, on n'est pas obligé à 30 ans d'avoir déjà une sexualité active, mais en tout cas, elle est complètement perdue face aux questions concernant la sexualité, et c'est plutôt là, à 30 ans, on n'est pas censé spécialement être perdu. Mmh. On est capable de parler de sexualité, on est capable de répondre à des questions, même si on n'a pas encore eu réellement de sexualité active.
Mmh. Alors, d'où vient ce syndrome? Comment expliquer ce blocage? Quelle est son origine? Est-ce qu'il y a des éléments déclencheurs, perturbateurs?
Alors oui, la littérature a identifié quelques causes. On peut avoir une éducation surprotectrice qui va poser problème parce que ce sont, alors pas spécialement des mauvais parents, le but n'est pas aller d'incriminer quelqu'un, mais des parents qui vont surprotéger, qui vont empêcher l'enfant de grandir et de prendre ses responsabilités, qui vont tout faire pour l'enfant. Et puis cet enfant n'aura jamais été habitué à prendre ses responsabilités et en grandissant, ne va pas vouloir les prendre. Mmh. On peut aussi avoir... une absence de modèle parental stable, finalement, quand il y a des lacunes au niveau parental, quand il y a peut-être des immaturités aussi de la part des parents, l'enfant va rester aussi très immature, ne va pas grandir en étant adolescent et puis à l'âge adulte. On a aussi les traumas dans l'enfance, et ça, c'est plutôt illustré dans le film. On voit finalement, on peut supposer en tout cas qu'il y a un deuil par rapport probablement au décès de la maman, en tout cas qui n'est plus là. Et on peut avoir tout ce qui est négligence, abus, maltraitance, qui va finalement pousser cet enfant à rester dans ce monde de l'enfance, parce qu'il y a une peur, une fuite de la réalité de l'âge adulte qui va perdurer dans le temps. Et alors, on peut avoir aussi cette idéalisation de l'enfance. L'enfance, c'est génial. L'enfant, il n'est pas limité, il ne doit pas faire de choix. L'adulte, il fait des choix. Et dans cette notion de choix, il y a aussi le fait de renoncer. Si je choisis telle chose, je renonce à plein d'autres choses parfois. Et c'est ce que les personnes qui ont ce syndrome ou ce complexe de Peter Pan ne veulent pas faire. En tout cas, ils ont très, très peur de le faire.
Donc, est-ce que c'est la responsabilité des jeunes adultes, de leurs parents, de la société actuelle, ou c'est un peu tout ça en même temps ?
C'est un petit peu tout ça en même temps, finalement, parce qu'effectivement, la société dans laquelle on vit aujourd'hui, alors, est-ce qu'elle occasionne plus de personnes qui ont ce syndrome ? Là, oui. Je ne sais pas, parce que c'est surtout qu'on en parle beaucoup plus, c'est plus visible. Donc, est-ce qu'il y en a réellement plus, ou est-ce que c'est juste qu'on en parle plus et qu'il y a un tabou qui est levé ? Là, c'est un petit peu à voir, mais effectivement, on est quand même dans une société où la jeunesse, elle perdure plus longtemps, puisqu'il y a eu un allongement des études, puisque le système socio-économique dans lequel on est aujourd'hui ne pousse pas les jeunes adultes à pouvoir... s'épanouir en tant qu'adulte, partir des parents, de chez les parents assez tôt. Et donc, on a une société qui a un impact évidemment là-dessus. On a tout ce qui est émergence des réseaux sociaux qui est là et qui montre finalement, qui donne une importance à cette recherche de la jeunesse éternelle finalement. Et donc on est confronté bien plus qu'avant à certains aspects sociétaux. Maintenant, je veux dire, on a commencé à entendre parler de ce syndrome dans les années 80, donc avec la génération X qui ne vivait pas dans le même modèle sociétal que les générations Y, Z et maintenant Alpha. Donc, ça existait déjà.
Donc, on ne peut pas vraiment parler d'une recrudescence de ce trouble comportemental, mais peut-être qu'on en parle plus, tout simplement.
Peut-être.
Mais évidemment, la société, vous parlez du marché du travail incertain, de plus en plus aléatoire, le prolongement de la longueur des études. Peut-être que le Covid est également à...
Alors le Covid, oui.
Oui.
Il peut impacter, effectivement. Hein. On a, je le vois hein, dans mes consultations privées, des personnes qui ont encore très, très peur, ne serait-ce que de se rendre quelque part dans les hôpitaux, etc. Donc, le Covid a un impact sur la santé mentale des personnes de manière assez générale. Donc, le Covid a pu impacter parce qu'au final, c'était rester chez soi, c'était parfois la perte de l'emploi ou en tout cas... c'était assez compliqué à gérer pour les métiers qui pouvaient travailler en télétravail. C'était possible aussi. Le télétravail, c'est très bien, ça amène plein de choses positives. Mais d'un autre côté, au niveau des relations sociales et du développement des relations sociales, t'as quelqu'un qui est en télétravail tout le temps, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Donc effectivement, le Covid a pu venir impacter. Maintenant, est-ce que le Covid occasionne plus de syndrome de Peter Pan? Je ne suis pas sûre. Là, c'est pas quelque chose où je peux l'affirmer de manière claire.
Donc, vous l'avez déjà dit tout à l'heure, on sait que la famille a une réelle importance dans le développement personnel. Donc, est-ce lié aussi au phénomène de l'enfant roi à qui tout est dû, ou l'hyper-parentalité, vous en avez parlé tout à l'heure?
Ça peut, parce que finalement, un enfant roi, on lui donne tout. Mm-hmm. Et parfois, on lui donne même tout avant qu'il n'en ait besoin. Donc, ce sont des enfants qui, parfois, n'ont même pas exprimé qu'ils souhaitaient quelque chose et on leur amène tout le temps. Et donc, ils n'ont pas de possibilité de faire des choix. Souvent, leur libre arbitre de dire « je souhaite plutôt ça que ça » et finalement, il a tout, c'est bafoué aussi. Mm-hmm. Donc, effectivement, on peut avoir ce phénomène qui va perturber avec, justement, des scènes d'immaturité, de « je veux tout de suite » qui perdurent dans le temps, à l'adolescence et à l'âge adulte.
Mm-hmm. On pense au film Tanguy aussi, un exemple pris à l'extrême, qui a donné son nom à un phénomène social. Donc, la loi énoncée par Peter Pan dans le dessin animé de Disney, c'est grandir est contraire au règlement, un lieu de commandement. Ces adultes refusant de grandir et ayant peur du monde adulte veulent rester des enfants. Un exemple frappant aussi est celui de Michael Jackson avec son Neverland.
Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, effectivement. Alors, le syndrome vient bien sûr de ce personnage de Peter Pan. Le nom est sorti de là, avec finalement cet homme qui est censé être adulte, qui vit dans ce monde imaginaire, le pays imaginaire effectivement, qui a besoin finalement de rester enfant, qui a peur de l'âge adulte, qui d'ailleurs, quand il rencontre Wendy, qui exprime qu'à un moment donné il faut grandir, il comprend pas, c'est très compliqué pour lui. Et c'est vraiment, Peter Pan incarne l'imaginaire, l'illimité que peuvent avoir les enfants. Et donc, ça vient de là. Alors, par rapport à Michael Jackson, je m'y connais quand même un petit peu moins là-dessus, mais effectivement, il avait cette tendance parfois à aimer les enfants, à vouloir rester dans l'enfance. Alors, on connaît peu et à la fois beaucoup de sa vie, mais qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est à prendre par rapport à ce qui a pu être diffusé. Je pense que, de ce que j'en sais, c'est que l'enfance de Michael Jackson a été quand même assez compliquée, avec finalement un enfant qui s'est retrouvé sur les devants de la scène très très tôt, avec une pression importante. Et finalement, on peut se demander, est-ce qu'il y a eu une enfance pour lui ?
Il n'a pas été privé, finalement,
de l'enfance, parfois bien après.
Alors l'adolescence pose de réelles questions parfois. Quelles conséquences pour la famille et quels parents seront les adolescents d'aujourd'hui ? Quelles répercussions de l'adolescence pour la société également ?
Alors l'adolescence, à mon sens, n'est pas réellement un problème parce qu'au final, c'est effectivement une période qui a été un petit peu ajoutée, qui n'existait pas avant, parce qu'avant, à 30 ans, bien souvent, les personnes étaient mariées, avaient des enfants, avaient une vie professionnelle, une maison. C'est plus le cas aujourd'hui, parce qu'il y a réellement, au niveau socio-économique, quelque chose qui rend impossible ça. Pour les personnes qui commencent à travailler très tôt, qui ont choisi de ne pas faire d'études, là, il y a un salaire qui vient beaucoup plus rapidement, mais un salaire qui est parfois plus bas que celui de quelqu'un qui a fait des études universitaires. Et donc, finalement, peut-être un niveau socio-économique qui est plus bas, avec une impossibilité parfois d'avoir des prêts, etc., pour construire, pour se projeter dans une vie d'adulte. Donc, des personnes qui vont parfois rester plus longtemps chez les parents pour pouvoir économiser et avoir ces projets un jour. Et pour ceux qui font des études plus ou moins longues, c'est aussi rester parfois chez les parents ou en cote, mais avec les parents qui interviennent parfois financièrement dans certaines situations, plus longtemps, jusqu'à des 23, 24, 25 ans, voire plus. Et puis après, c'est la recherche d'emploi. Combien de temps après l'emploi arrive, un salaire qui se fait, mais pareil, il y a une notion d'économie qui doit se faire avant de quitter le nid familial. Et donc finalement, l'adolescence n'est pas réellement une difficulté. C'est un phénomène de société qui est arrivé. Et je pense vraiment une période qu'il faut prendre en considération. Maintenant, c'est plus enfant, adolescent, adulte. Il y a cette adolescence qui vient, qui vient se mettre entre les deux. Donc là, il n'y a pas de réelle difficulté. On n'est pas face à quelqu'un d'immature et qui prend pas ses responsabilités.
Et quand est-ce que justement le refus de grandir devient pathologique, devient problématique ?
Mais quand ça impacte finalement la vie de la personne. Quand ça va impacter le domaine professionnel, pas de profession, voire changement courant de job. Quand ça va occasionner des problèmes relationnels, des problèmes avec des parents, des problèmes avec les amis, des problèmes peut-être avec des partenaires. Quand ça va impacter la personne en général. Là, on est réellement face à un problème. Quand la personne est en souffrance par rapport à ce qu'il ou elle vit, voire même rejeté des autres, parce qu'on peut tolérer de quelqu'un qui a 25, 26 ans des moments d'immaturité, on le tolère moins à 30 ans et encore moins à 40 ans. Il y a des moments où, et dans le film c'est bien pointé, mais attention, tu as 30 ans, qu'est-ce que tu fais ? Tu n'as plus à traîner avec des adolescents de 14, 15 ans, à aller faire du skateboard avec eux, à aller faire des soirées, tu es l'adulte.
Alors, comment peut-on les soigner ? Doit-on les soigner ? Et surtout, comment ? Quelles sont les approches thérapeutiques généralement utilisées ?
Alors, il y a différentes approches thérapeutiques. On peut aller vers des thérapies plus individuelles où on va aller travailler la recherche de l'autonomie. Qu'est-ce que l'autonomie ? Et des responsabilités, on va aller travailler ça dans la gestion des émotions parce qu'il y a une réelle peur de prendre ses responsabilités, d'abandonner cette enfance qui est importante pour ces personnes-là. Et donc, aller travailler ça et montrer que, l'âge adulte, c'est l'âge des responsabilités, c'est l'âge des choix. Mais est-ce que forcément, l'âge adulte, il y a que des choses négatives par rapport à l'enfance, mais pas forcément. Et c'est voilà, pouvoir leur montrer qu'en acquérant une certaine autonomie, une certaine responsabilisation de leurs actes, ben ça va leur permettre d'évoluer. Alors on peut évidemment travailler sur les traumas, si c'est ça qui a mené au syndrome de Peter Pan, hein, quelqu'un qui a vécu des négligences, des abus, des maltraitances importantes, mais il serait peut-être intéressant d'aller les travailler, des deuils aussi importants. Après, on peut partir sur des thérapies plus de couple, quand la personne a un partenaire et que ben, finalement, dans la relation, il y a un réel problème qui se pose, ou des thérapies familiales. On le voit aussi dans ce film, du papa qui a conscience que sa fille a des difficultés, qui peut à certains moments remettre le cadre et dire « mais attention, tu es adulte, comporte-toi comme une adulte ». Et puis à certains moments, quand on le voit frapper à la porte de sa fille, on a l'impression qu'il frappe vraiment à la porte d'un enfant. Et donc, à certains moments comme ça, où il se rend compte des choses, et puis d'autres où il y a peut-être aussi l'affect qui intervient, qui se dit « j'ai peut-être été trop dur », ou en tout cas, il se rend compte que sa fille souffre et va finalement la surprotéger. Et là, c'est pas forcément bon, parce que la personne ne se rendra pas compte du problème. Donc, quand il y a des relations comme ça et qu'on peut imaginer une espèce de codépendance, là, on peut aller vers des thérapies plus de couple, plus de famille. Donc, voilà, c'est vraiment le travail de tout ça.
Et le premier obstacle à franchir, c'est le déni par rapport à ce souci, ce syndrome.
C'est faire prendre conscience effectivement à la personne qu'il y a une difficulté. Alors, parfois, ce sont quand même des personnes qui ont conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas tout à fait dans un déni, on n'est pas face à un syndrome où la personne ne s'en rend pas compte. Parfois, certaines personnes s'en rendent compte.
On la démarche de venir voir un thérapeute, une psychologue.
Parfois, oui. Oui. Quand on a vraiment des personnes comme ça qui disent « mais je suis tout le temps rejetée finalement, j'arrive pas à maintenir un travail, je comprends pas pourquoi ». Il peut y avoir des personnes qui viennent spontanément, qui parfois c'est des demandes plus de la famille. Maintenant là, c'est toujours compliqué, parce que ça peut être une demande de la famille, mais on est face à un adulte, donc sans son accord, on n'interviendra pas. Mais il est important, en fait, pour démarrer une prise en charge, que la personne ait un déclic et se rende compte qu'il y a un problème. Alors pas forcément qu'elle est dans ce syndrome-là, mais en tout cas qu'il y a un souci derrière.
D'accord. Alors autrefois et encore aujourd'hui, selon les cultures, par exemple dans certains pays africains, il y a des rites de passage qui permettent de structurer la vie en étapes précises, de reconnaître le changement. Faudrait-il réinstaurer finalement des rites de passage pour aider ces adolescents dans la transition vers la vie adulte ?
Alors là, je vais avoir difficile à vous répondre. Je connais beaucoup moins ce qui se passe en Afrique. J'aurais tendance à dire que est-ce que c'est réellement, enfin, la question que je me pose, c'est est-ce que c'est réellement ces rites de passage qui permettent d'un enfant de passer à l'adolescent et à l'âge adulte, ou est-ce que c'est un phénomène de société? Parce que je pense qu'en Afrique, en fonction évidemment d'où on se trouve, on n'est pas tout à fait dans une société qui ressemble à la société occidentale, qui a un impact par rapport à ça. Maintenant, c'est pas pour autant que ce syndrome ne pourrait pas exister en Afrique, puisque bien évidemment les causes, elles peuvent être au niveau éducationnel, au niveau des traumas, etc. Donc voilà, maintenant, est-ce que ce sont vraiment des rites de ce type-là qui pourraient, je vais dire, faire passer à chaque fois la personne d'un stade à l'autre? Je ne sais pas si ça pourrait réellement avoir un impact par rapport à ce syndrome.
Alors, comment différencier un adulte qui a ce syndrome de quelqu'un qui a simplement une personnalité plus jeune, entre guillemets?
Et ça va dépendre de l'âge. Comme je le disais tout à l'heure, finalement, à 23, 24, 25 ans, je suis pas sûre que c'est judicieux de poser ce diagnostic. Par contre, à 30, 40 ans, là, réellement, si on continue à avoir des comportements très enfantins qui impactent plusieurs sphères de la vie, là, par contre, c'est intéressant de le mettre. Par contre, il faudra bien différencier ce syndrome-là d'un trouble de la personnalité narcissique ou évitante. On n'est pas dans la même chose. Donc là, c'est bien pouvoir axer sur on est face à quel type de personnalité, quel syndrome on a en face de nous finalement.
Alors dans le film Souviens-toi des cacahuètes, c'est une femme qui est atteinte de ce syndrome de Peter Pan, mais on parle souvent des hommes pour ce syndrome, j'ai l'impression. Et apparaît-il différemment chez les hommes ou chez les femmes ?
Alors, il apparaît pas spécialement différemment, mais effectivement, il y aurait un ratio, en tout cas d'hommes, qui seraient plus touchés par ce syndrome-là que les femmes. Alors là, ça peut s'expliquer par une différence en général dans l'éducation, même si les balises de l'éducation sont en train de changer entre comment on élève un petit garçon, comment on élève une petite fille. ça reste quand même fort ancré dans les sociétés, on est quand même face à un modèle d'éducation où on va responsabiliser très vite les filles par rapport aux garçons. Et on appuie aussi sur le développement, en tout cas l'expression des émotions beaucoup plus fortes chez les petites filles que chez les petits garçons. Il y a parfois, alors de moins en moins, mais on a encore quand même ce discours de « je suis un petit garçon, je ne peux pas pleurer ». Ce discours, il tient quand même, il colle un petit peu à la peau. Et je vais dire que dans des patients qui ont parfois 30, 40, 50 ans que je peux rencontrer, il y a des fois où je vois l'émotion et je dis « mais vous avez le droit ». Et ils prennent conscience, parfois très tard, qu'ils ont le droit. Et donc, on a cette différence d'éducation avec les filles qui vont pouvoir exprimer leurs émotions, où on va leur dire, prends tes responsabilités très tôt par rapport à un garçon qui va rester plus dans l'innocence, l'insouciance. Et donc, on aurait plus de garçons, effectivement, d'hommes qui seraient touchés par ce syndrome. Ça ne veut pas pour autant dire que les femmes ne sont pas touchées du tout par celui-là.
Alors, l'histoire de Peter Pan est une mine d'inspiration pour les psychologues. Il y a d'autres syndromes comme le syndrome de Wendy, le syndrome de la fée clochette. Enfin, j'ai vu ça en faisant quelques recherches. C'est drôle.
Oui, c'est drôle parce que finalement, on reprend des films, des livres parfois, parce que ça a d'abord été
écrit. Des contes aussi, oui.
Des contes pour décrire des syndromes et c'est effectivement assez drôle. Alors le syndrome de Wendy, souvent on l'associe à Peter Pan et ça c'est très bien fait finalement parce que on les retrouve tous les deux dans le même animé et ils se coordonnent vraiment entre le syndrome de Peter Pan qui est indépendant, affectif, qui a besoin des autres et le syndrome de Wendy, là par contre qui touche plus vite des femmes que des hommes, avec cette façon de « je veux aider l'autre, je veux l'entourer de manière excessive ». Mais là, effectivement, si on a deux personnes qui se retrouvent avec l'un le syndrome de Peter Pan et l'autre le syndrome de Wendy, c'est un petit peu le combo parfait pour former en tout cas le couple. C'est peut-être pas le bon combo pour la suite de la vie, mais effectivement, on a ça et parfois, on utilise effectivement des films. Pareil, tout à l'heure, on parlait de Tanguy. C'est devenu finalement un terme qu'on utilise aussi.
Le complexe de Cendrillon aussi, j'avais vu.
Oui, parfois, on peut avoir ça. Il y a un petit peu comme tout ce qui est syndrome de Stockholm pour La Belle et la Bête. Effectivement, on a finalement ces animés, ces petits films, ces petites histoires, ces contes qui ont rythmé l'enfance. Alors, un petit peu de manière différente en fonction de l'âge, parce que Cendrillon, Peter Pan, La Belle et la Bête, à la fois c'est récent, mais c'est quand même vieux, je vais dire. C'est pas ceux d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est plus face à La Reine des Neiges, Vaiana, etc. Donc, on n'est pas du tout dans la même chose. Et je pense qu'il y a vraiment eu un travail de la part des réalisateurs pour mettre à jour d'autres choses. Mais effectivement, ce sont des films qui ont rythmé l'enfance de pas mal de monde, avec finalement, pendant l'enfance, c'est normal de tomber peut-être amoureux de la personne qui nous séquestre, c'est normal de kidnapper des enfants et de vivre dans un pays imaginaire. Voilà, c'est des contes qui ont effectivement rythmé l'enfance. Alors, est-ce qu'ils sont à balayer ? Je suis pas sûre, loin de là. Il faut par contre en retirer les bonnes conclusions après. Et les bons messages.
Merci de nous avoir accordé cette interview et impatiente de vous entendre encore sur le sujet le mardi 27 mai au Staquet, à l'issue de la projection du film Souviens-toi des cacahuètes. Merci beaucoup Amélie.
Avec plaisir.
Voilà, il n'y a pas péril en la demi-heure, c'est terminé. On se donne rendez-vous dans un mois, le vendredi 20 juin, entre 13h et 13h30 sur RQC. Et sinon, vous pouvez nous retrouver en podcast sur le site de RQC, celui du Centre culturel de Moucron, www.centrecultureldemoucron.be, ainsi que sur Spotify. À bientôt pour un nouvel épisode. And I'm feeling good. It's a new day, it's a new life for me, and I'm feeling good.
dragonfly out in the sun. You know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun.